Déjà, est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo-là?
Corris de tabac dans sa de crise d'année de marde qui nous attend.
Je veux pas vous dire que je vous l'avais dit, mais... Je vous l'avais dit. Est-ce qu'on se souviendra de 2025 comme étant l'année qui a tué le cinéma? Ça, je sais pas. Mais clairement une année où on a enfoncé du clou dans le cercueil. Et ça commence maintenant. All the kids want us to someday.
Récemment, vous avez essuyé de nombreuses critiques pour ce
qu'il y en a eu tant que ça.
Commençons par un petit résumé de ce qui s'est passé en 2025 au cinéma. Déjà, on a eu un film Superman et comme je l'avais prédit, 50% des gens ont trouvé que ce film-là c'était de la merde et 50% des gens ont trouvé que c'était le meilleur film de Superman depuis 79. C'était pas vraiment super dur à prédire, ça. Ensuite, encouragez-vous, parce qu'en 2026, on va avoir le droit à un film Supergirl. Et ça... C'est une idée comme un autre. Mais je peux tout de suite vous prédire que 50% des gens vont dire que c'est un film génial et 50% des gens vont vous dire que c'est la pire merde qui a jamais été faite. Parce que maintenant, c'est comme ça. Ensuite, au mois de novembre, on a eu droit à un film Predator. Predator Badlands. J'ai fait une vidéo sur le film et plusieurs commentaires me disaient des phrases comme « c'est pas si pire que ça, c'est regardable ». Je comprends tout à fait votre point de vue. Le seul problème, c'est que c'est pas un film Predator.
Alors, c'est ta première chasse.
Ensuite, cette année, on a eu 3 films Marvel. Ah ben oui! Ah ben oui, il y en a eu 3. Il y a eu le nouveau Capitaine America. Vous vous souvenez de ce film-là? Non? Vous vous souvenez pas? C'est correct. Personne s'en souvient. Celui avec l'Hulk rouge. Ensuite, on a eu Thunderbolts, mais 3 jours après, ils ont décidé de changer de titre et d'appeler ça les nouveaux Avengers. Un coup de publicité incroyable de Disney. Et probablement une des idées les plus débiles de la dernière décennie. Personnellement, j'ai trouvé que Thunderbolt était un film de super-héros générique dans lequel t'aurais pu mettre n'importe quel autre super-héros, mais c'est juste mon opinion. Et ensuite, on a eu Les 4 Fantastiques. Et même si j'ai bien aimé le côté rétro-futuristique des 4 Fantastiques, on peut pas dire non plus que c'était un grand film. Et j'aimerais souligner à tout le monde que c'est une copie des 4 Fantastiques et du Surfeur d'argent qui était sorti sur Fox il y a une quinzaine d'années, là. Avec Jessica Alba. Oui, c'est plus ou moins le même film. Mais sorti maintenant. Mais ça, personne ne l'a remarqué apparemment. Mais inquiétez-vous pas, parce qu'en 2026, Marvel va sortir Avengers Doomsday. C'est le retour de Robert Downey Jr. et tout le monde va être heureux. On a eu le droit à une chier de reboot et de remake. On n'a qu'à penser à Ballerina, un reboot de la série John Wick, où ils ont dû rajouter du John Wick parce qu'il n'y en avait pas assez. Puis c'est ça. Puis c'est un beau film qui ne sert pas à grand-chose. On a également une saga vieille de 30 ans, Jurassic Park, qui continue d'essayer de se renouveler ce coup-là avec Scarlett Johansson dans Jurassic Park Renaissance. Si vous avez vu ma vidéo sur Jurassic Park, vous savez très bien que c'est un film que je n'ai absolument pas apprécié. Et j'irai plus loin en vous disant ceci. De tous les films de dinosaures qui sont sortis cette année, Jurassic Park est même pas dans mon top 3. Eh ben non. Il y a Primitive War, qui est le meilleur. Ensuite, t'as Commando Ninja 2. Ensuite, t'as tous les trucs qui n'existent pas. Puis juste en dessous, eh ben, t'as Renaissance. Et il y a une suite qui s'en vient l'année prochaine. Sur nos petits écrans, on a eu le droit également à une série sur Alien, une saga que j'apprécie particulièrement. Et pour être certain que tout le monde comprenne, ça a été une série qui a été écrite par des enfants, pour des enfants, et comme si c'était Disney qui organisait ça. Alien Earth, j'ai tellement pas apprécié ça que j'ai même pas été capable de finir la série au complet. Même moi, j'ai mes limites. L'été dernier au cinéma, on a eu le droit à une copie de Days of Thunder ou Jour de tonnerre avec Tom Cruise, sauf que ce coup-là, ça s'appelait F1 avec Brad Pitt. Et c'est ça. C'est un des meilleurs films de l'été. Ça a été un de mes divertissements préférés de l'été et c'était une copie de Days of Thunder. On est en 2025, je vous le rappelle. On se satisfait de peu. On a eu un film Tron, juste pour permettre à Trent Reznor et Nine Inch Nails de faire une BO. Parce que tout le monde se fout du film Tron. Les gens voulaient juste entendre la BO, quoi. Je suis sûr qu'il y a eu plus de téléchargements de la BO qu'il y a eu de gens qui se sont déplacés au cinéma pour voir le film. Parce que tout le monde se fout du film. C'est la BO qui est intéressante là-dedans. On a également eu la chance de voir Netflix cramer devant nos yeux 320 millions de dollars en faisant le film Electric Slate. Je répète, 320 millions de dollars pour un des pires films de science-fiction que j'ai jamais vu de ma vie. C'est le néant. Il n'y a rien là-dedans. Mais absolument rien. C'est vide. C'est pourri. C'est les frères Rousseau qui ont fait ça. Et 320 millions pour ça. J'ai même pas été capable d'en faire un épisode de Dimanche Navet tellement je suis incapable de regarder ce film-là et de faire d'autres choses que m'endormir. On a eu une suite de la série 28, après 28 jours, 28 semaines. Maintenant, on a 28 ans plus tard. Et c'est un des bons films que j'ai vu cette année si je réussis à oublier la dernière demi-heure. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a une suite qui s'en vient bientôt sur la dernière demi-heure. On a également eu droit à un remake de Running Man, OK, qui est, selon moi, selon mon humble opinion, là, la définition même de bof. Oui, parce que sans être très mauvais, ce n'est ni très bon. Ça a l'air d'être un film commande pour Edgar Wright, qui a plus ou moins la réputation de faire que des films de cœur. Ici, ça a l'air d'être un film commande. C'est un film qui a eu très peu de succès au box-office. Un peu comme son prédécesseur, je dirais. Et... bof. C'est bof.
Bienvenue à Running Man!
En 2024, juste à la fin de 2024, était sorti un film sur Bob Dylan. Maintenant, à la fin de 2025, est sorti un film sur Bruce Springsteen. Quand je dis un film sur Bruce Springsteen, je veux dire un film sur la création de l'album Nebraska, qui est un des meilleurs albums, le meilleur album de Bruce Springsteen, c'est clair. Et je m'interroge à savoir, est-ce qu'il n'y a pas un producteur français présentement, à l'heure où on se parle, qui est en train de se dire pourquoi ne pas faire un film sur la carrière de Mireille Mathieu? Juste le jour où elle choisit sa coupe de cheveux, on peut faire un bon 10 minutes avec ça, non?
Je suis une femme amoureuse.
En 2025, il y a également Paul Thomas Anderson qui a décidé de faire un film d'action des années 70. Il a également décidé d'y mettre une morale absolument pas subtile sur l'antifascisme ou ne pas aimer l'extrême droite. Les gens le savent, ça, non? Qu'il ne faut pas aimer l'extrême droite ou... Et vous savez ce qui s'est passé avec One Battle After Another? Absolument rien. À part les cinéphiles, il n'y a personne qui est allé voir ça au cinéma. Par contre, ils vont gagner plein de prix. Puis ça, c'est important. Ryan Coogler, lui, Monsieur Black Panther, a fait un film de vampire. Ben, un demi-film de vampire qui s'appelait Sinners. Sans être le pire film que j'ai vu en 2025, ce n'est pas le meilleur non plus. Même que je vous dirais qu'il y a des trucs que j'ai beaucoup aimé de ce film-là, et il y en a d'autres qui m'ont laissé complètement indifférent. Mais ce que j'ai trouvé le plus désagréable dans tout ça, c'est que je dirais que le dernier acte du film me laisse un goût de déjà-vu. Un arrière-goût de déjà-vu. Dwayne The Rock Johnson, lui, a décidé de faire un drame. Parce que c'est clair qu'on avait besoin de voir Dwayne The Rock Johnson dans un film dramatique. Nous montrer toute la panoplie de son art. Okay? J'ai vu le film et j'ai pas aimé ça. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on parle beaucoup du fait que The Rock, Dwayne Johnson, est un super acteur dans ce film-là. Personne parle de sa performance dans Jumanji. Ou dans The Mummy. Non, non. Dans ce film-là, c'est un super acteur. Et là, il risque de gagner plein de prix. Puis ça, ben moi, ça me fait rire. Déjà, jouer un combattant accro aux médicaments et aux stéroïdes, c'est pas vraiment un énorme stretch pour The Rock, là. Donc, j'ai énormément de difficultés avec le fait qu'on vende son travail comme s'il venait d'inventer le jeu d'acteur. Ça me saoule énormément. Cette année, on a également eu une preuve supplémentaire du népotisme généralisé qui règne à Hollywood. Daniel Day-Lewis, le meilleur acteur de sa génération... Oui, je pense que c'est juste de dire ça, a décidé de revenir devant la caméra pour permettre à son fils, Ronan, de réaliser un film, Anémone. Est-ce que le film est bon? Ça n'a pas d'importance. Est-ce que la performance de Daniel Day-Lewis est bonne? Comme d'habitude, il est excellent. Est-ce que son fils méritait de faire un film avec Daniel Day-Lewis dans le rôle principal? Non. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos enfants?
Mais comment on en est arrivé là?
Parlons maintenant un peu du cinéma français, OK? Parce que ça n'a pas été une année facile pour le cinéma français non plus. J'ai d'ailleurs eu la chance d'étudier en profondeur le navet français en 2025 avec Toutes pour une, Papa mobile, Le grand déplacement. J'ai été choyé. Mais je profite de cette revue de fin d'année-là, si vous voulez, pour vous parler d'un truc qui est peut-être passé sous le radar des gens, OK? En France, en 2025, c'est devenu normal de faire de l'égo-exploitation. C'est quoi l'égo-exploitation? Ça, c'est un terme nanorland, mais ça se traduira en anglais par « vanity project ». Dans le domaine cinématographique, ça implique, par exemple, qu'un acteur prenne en charge la plupart des métiers artistiques, réalisation, scénariste, acteur, etc., etc., plus que le mec peut en faire, le plus qu'il en fait, quoi. Et ça, ben, ça finit souvent par créer des situations extrêmement gênantes. On a eu plusieurs exemples de ça en France cette année, mais je dirais qu'il y a deux films qui remportent la palme du Vanity Project, de flattage d'ego, et c'est Kaamelott 2 et Yo Roi.
Ceux qui pigent rien à rien, ça dégage!
Je pense que tout le monde ou presque a apprécié la série Kaamelott. J'aime beaucoup la série Kaamelott. J'ai rien contre le film, j'ai rien contre les films en général, mais il faut se rendre à l'évidence qu'Alexandre Astier est dans sa période égo-exploitation de sa carrière. Là, c'est plus sa mère, son père, mais ses enfants. Bientôt, je crois que c'est lui qui va être en charge du buffet sur ses productions. Ce n'est qu'une question de temps. Alexandre Astier commence à faire du Neil Breen. Et pour Oral San, Yo Roi, ben, c'est son petit projet d'égo-exploitation aussi. Hein? On s'est bien amusé. Bien sûr que si. Hein? On a fait un petit truc qu'on voulait faire, comme on voulait le faire, et peu importe si c'était bon. Parce que c'est moi qui décide. Le pire à travers tout ça, c'est que j'ai vu ces mecs-là faire de la promo sur plusieurs chaînes YouTube, à la télé, etc., de leur projet qui sortait cette année. Et il n'y a jamais eu une question là-dessus. Est-ce que tu vois ton projet comme un projet de vanité, de l'égo-exploitation? Mais je pense que l'important, c'est que les gens s'amusent, quoi. Faut passer à d'autres choses. Je vais passer maintenant au truc qui a énervé le plus de gens, je pense, en cette fin d'année sur les réseaux sociaux. C'est la folie. Sur YouTube, c'est la folie. Netflix. Oui, Netflix et Paramount, parce qu'il n'y a pas que Netflix, mais Paramount veut également acheter Warner Bros. Donc, tu as ces deux énormes entreprises-là qui veulent acheter une autre énorme entreprise. Et ça, ça stresse les gens. Pourquoi ça stresserait les gens, Steve? Ben parce que Netflix, leur modèle d'affaires, c'est pas de sortir des films au cinéma. Non. Et là, je vais essayer de vous donner mon point de vue le plus poliment possible. Déjà, un, OK? Je pense que Netflix est l'entreprise dans le monde qui connaît le mieux nos habitudes de consommation de films. Ils savent ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on regarde, quand on le regarde, combien de temps on le regarde, combien de fois on va regarder la même chose. Ils savent énormément de choses sur nos habitudes de consommation. Je pense même que Netflix connaît même tes goûts de cinéma mieux que toi, OK? Ce qui fait en sorte que Netflix a du data incroyable sur ce que les gens aiment et ce que les gens n'aiment pas, et que ça doit quelque part motiver leur envie d'acheter une compagnie comme Warner Bros. Qui a énormément d'IP intéressantes. On a pensé que tout ce qui se fait sur HBO, et ça c'est un exemple parmi tant d'autres, rajouter DC Comics à ça, regarde, il y a plein de trucs intéressants pour Netflix là-dedans. Et eux, ils savent très bien que les gens sur leur plateforme vont aimer ce contenu-là. Et il y a un truc aussi hyper important que les gens oublient de spécifier quand ils chient sur Netflix, c'est que Netflix s'est rendu compte d'un truc hyper important dans les dernières années. Je dirais même la dernière décennie, OK? Si t'offres le choix aux gens de regarder un film assis sur ton cul dans ton salon ou assis sur ton cul dans une salle de cinéma entourée d'étrangers qui puent, les gens choisissent souvent leur salon. Ça, c'est pas de leur faute, là. Oui, parce que... On parle de cinéma, mais... Mis à part les cinéphiles, là... Combien de fois par année vous allez au cinéma maintenant, en 2025? Déjà, c'est super cher. Ensuite, il y a des gens... Les gens, ça pue. Je pense sincèrement que c'est les cinéphiles qui se plaignent de la situation actuelle parce que monsieur, madame, tout le monde, ils s'en foutent que Netflix achète Warner. Ça change rien dans leur vie. Oh, on va avoir plus de choix sur mon Netflix. OK, c'est bon. Les cinémas, c'est un truc de cinéphile maintenant. Mais apparemment, quand on regarde la chute, c'est plus pour tout le monde, là. Oui, parce que le vrai cinéphile, lui, il veut l'expérience totale. Le grand écran, le son, etc., la salle. Pour le cinéphile, c'est hyper important. Encore une fois, monsieur et madame tout le monde, leur écran 60 pouces, leur système de son boss, ils sont super satisfaits avec ça. Donc, je vais vous dire qui va en prendre plein la gueule si Netflix achète Warner, c'est les salles de cinéma. Oui, les mêmes salles de cinéma qui, depuis des années, augmentent les prix et diminuent le service. Vous savez? Ouais, eux, là. Pour eux, ce sera pas facile. Ça sera pas facile pour eux comme ça a pas été facile pour les cabines téléphoniques quand les téléphones portables sont arrivés. Oui, parce que je vais prendre 2 secondes pour vous parler de darwinisme social. Tu t'adaptes ou tu meurs. Et le cinéma est juste rendu là. C'est un truc du 20e siècle. On est au 21e siècle. Je suis fan du cinéma. J'ai été un énorme client de cinéma. Mais on ne peut pas empêcher le progrès. Et que vous le vouliez ou pas, là, si toutes ces compagnies-là ont toutes leurs plateformes de streaming, parce que Paramount aussi a sa plateforme de streaming, d'après vous, est-ce que c'est parce que les gens vont de plus en plus au cinéma qu'ils veulent de plus en plus nous vendre des films dans notre salon? Je vous pose la question. Là. Est-ce que ce rachat-là de Warner par Paramount ou Netflix va signifier la fin du cinéma? Non. Ça va être un gros coup de couteau d'un côté, d'après moi. Ça va faire très mal. Mais il y aura toujours des cinémas pour les cinéphiles. C'est juste un truc qui va s'adapter. Après, il n'y a plus de clubs vidéo non plus. Hein? Puis même si ça nous manque, on est passé par-dessus. On a survécu. Et tous ceux et celles qui jettent Netflix sous le bus en disant « C'est inacceptable qu'une compagnie de streaming achète une compagnie de cinéma. » OK, t'es abonné à combien de plateformes de streaming? T'as piraté combien de films cette année? T'es allé au cinéma combien de fois? Et est-ce que selon les réponses que tu viens de me donner, là, tu penses que tu fais partie de la norme ou de l'exception? Comme par exemple, moi, j'aime ça m'acheter des vinyles. OK? Et je pense pas que tout le monde devrait écouter sa musique sur des vinyles. Moi, j'aime ça, faire ça. Mais je fais partie de l'exception. Je suis pas la règle. Pour finir maintenant, revenons à ma question de base. Est-ce que 2025 signifie la mort du cinéma?